Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, émission de cinéma. Bonjour Marine, avec un petit problème de toux, et bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, eh bien, chacun est venu avec ses munitions. Marine, tu as deux films.
Oui, en plus de mes petites maladies. Oui, je vais vous parler de Bang Gang, un premier film de Eva Husson, un film français très attendu sur la débauche adolescente. Et je vous parlerai également de Paris, Oui, l'oubli, dont on a également une interview, l'interview des deux scénaristes et réalisateurs.
Et puis toi Manu, alors le cinéma fantastique français, ce sera pour la semaine prochaine, mais là aujourd'hui c'est un film d'animation.
Un manga donc qui s'appelle Garçon et la bête.
Et puis eh bien, ce sera l'occasion, cette émission aussi, de parler d'un film qui sort ce 20 mars, de Danish Girl de Tom Hopper qui concourt aux Oscars. Il avait déjà remporté des Oscars eh bien, pour son précédent film. Et puis eh bien, on écoutera Amparo Badiola, c'est une actrice qui vit à Sète et qui joue dans Amama de Azir Altuna, qui est un film basque qui concourait au Cinémed et qui est vraiment une réussite. Voilà, c'est Cinérama qui débute.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
C'est un film à Oscar dans une période qui s'y prête par Tom Hopper, un réalisateur qui en a déjà obtenu quelques-uns d'Oscars avec notamment Le discours d'un roi. Alors il ne s'agit pas là d'un projet personnel mais d'une commande rattrapée au vol. Quelques réalisateurs ont lu le script qui passait de main en main il y a déjà quelques années. Alors on a parlé un temps de Nicole Kidman pour jouer le rôle de cette fille danoise transgenre et même pour réaliser le film. Mais rien de tout cela puisque c'est donc Tom Hopper qui réalise et puis Eddie Redmayne qui se colle au personnage. The Danish Girl retrace l'histoire de Lily Elbe, née Einar Wegener, une artiste danoise connue pour avoir été eh bien, la première personne à subir une opération pour changer de sexe. Alors c'était dans les années 30. Et puis elle a marqué eh bien, à jamais l'histoire du mouvement queer. Le mouvement queer différencie sexe mâle-femelle avec le genre masculin-féminin. Aussi, eh bien, le genre ne découle pas du sexe acquis à la naissance. Et c'est bien là l'histoire de Einar Wegener. Alors nous sommes au Danemark dans les années 20 avec Gerda et Einar Wegener qui mènent une vie de bohème, on ne s'en fait pas pour eux, hein. Tous deux sont peintres, l'une est une portraitiste un peu aventureuse pour l'époque et puis son mari eh bien, est paysagiste reconnu. Leur rapport va basculer quand Gerda demande à son mari eh bien, de remplacer sa sœur en tant que modèle. Pour cela, il doit chausser des chaussures de femme et passer une robe, ou du moins la placer devant lui. Alors un moment troublant qui va marquer cet homme à jamais en faisant ressurgir des souvenirs et des émotions enfouies. Et après cette première glissade dans la peau d'une femme, eh bien, Einar va devenir Lily, pour lui et pour sa femme aussi. Elle va désormais, eh bien, sa femme, le présenter comme une cousine de son mari en société. Et si l'histoire s'arrêtait là, eh bien, on n'en ferait pas un film.
Que s'est-il passé hier soir ?
L'espace d'un instant, je n'étais plus moi. L'espace d'un instant, je n'ai plus été que Lily.
Lily n'existe pas. C'était un jeu pour nous.
Quelque chose a changé.
Il s'est perdu. Il a besoin d'un ami.
Laisse-moi t'aider. Je pense ce que Lily pense. Je rêve ce dont elle rêve. Elle a toujours été en moi.
J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin de le serrer contre moi. Est-ce que tout va bien ?
Non. En fait, je crois que je suis une femme.
Et je le crois aussi.
Ce genre d'intervention n'a encore jamais été pratiqué.
Tu es toute ma vie. Ça pourrait te tuer.
C'est mon seul espoir. Ce corps n'est pas mon corps. Je dois m'en séparer. Je t'aime. Tu es la seule personne qui me comprend. Tu m'as permis d'éclore.
Voilà, tout va se compliquer, donc on l'entend dans cette bande-annonce, quand Lily voudra vraiment quitter le corps de l'homme qu'elle était. Alors l'époque n'est pas très ouverte hein, aux transgenres, et les spécialistes font avec les mentalités de l'époque, hein, plutôt que de se poser des questions philosophiques sur le genre, ils préfèrent balancer des rayons dans les testicules ou diagnostiquer une schizophrénie et puis enfermer à vie. Parce que Lily Elbé était d'un milieu aisé, alors ça ne se passera pas comme ça. De médecin en conseil avisé, donc elle va rencontrer un chirurgien allemand qui pratique la vaginoplastie. Et Lily sera donc la pionnière d'une nouvelle ère hein, où on peut changer de sein, les gonfler, les enlever, procéder à l'ablation du pénis, à l'allongement du clitoris, que sais-je. Mais The Danish Girl n'est pas un précis de chirurgie, pour ça on regarde la série de Soderbergh de Knick. The Danish Girl tente avant tout d'explorer les troubles d'un individu qui ne se résigne pas à être un homme, mais aussi les tourments d'un couple face au changement. En cela, The Danish Girl est un drame drainé par une histoire d'amour. Alors, évidemment, qui dit transformation dit film d'acteur. Et ici, c'est Eddie Redmayne, qu'on a déjà vu atteint de sclérose quand il a interprété le scientifique Stephen Hawking dans une merveilleuse histoire du temps, en raflant un Oscar au passage. Alors, autant dire qu'ici, il ne le mérite pas forcément, l'Oscar. Hein. Il reste dans un cabotinage un poil agaçant, usant des mêmes mimiques pour se transformer en femme. Mais avouons que sa physionomie androgyne fait déjà beaucoup pour le rôle. Alicia Vikander, je crois que c'est comme ça qu'on dit,
oui.
Hein, ouais. L'actrice suédoise qui joue sa femme, en fait, s'en tire bien mieux. Et l'équilibre du film, s'appuyant sur leur relation, repose sur le jeu qu'ils entretiennent. Alors, il ne faut rien attendre de la mise en scène qui tente quelques plans méticuleux, mais qui n'est pas très audacieuse, voire très convenue. Tom Hooper ose surligner l'envie de Lily de changer de sexe quand elle regarde la finesse du corps de sa femme. Alors, cinématographiquement, c'est une occasion hein, pour le spectateur de se rincer l'œil avec les courbes d'Alicia Vikander. Hein, pas grand-chose. S'inspirant de la vie de la vraie Lily Elbe, Tom Hooper a quelque peu transformé la vie de cette première transgenre. L'intérêt du film réside peut-être dans les relations que le couple entretient, car à tout moment, ce couple aurait pu imploser. En nous plongeant dans une époque où le transgenre n'était pas questionné, au-delà du biopic, le réalisateur aurait pu pousser certaines séquences où l'on est confronté avec les mentalités du moment. Mais tout cela est vraiment survolé. Enfin, il insiste vraiment sur la relation du couple. Alors, nous avons là un produit à Oscar un peu bancal sur un grand sujet de société, finalement. The Danish Girl sort ce 20 janvier et, à mon avis, il ne remportera aucun Oscar. Enfin, en tout cas, je l'espère.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Avec le silence de Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira, la disparition brutale de Satoshi Kon et la retraite anticipée de Miyazaki, le cinéma d'animation japonais est devenu subitement orphelin. Par ailleurs, excepté le magnifique Le Conte de la princesse Kayuga, du vétéran Takahata, qui a quand même près de 80 ans, voire plus, les dernières productions Ghibli se sont révélées par ailleurs assez décevantes, trop sous influence polie de l'auteur de Nausicaa. Alors Mamoru Hosoda pourrait devenir l'un des maîtres du manga animé moderne avec notamment ce nouveau film, Le Garçon et la Bête. Il revient de loin pourtant, car si l'on consulte ses débuts, on le retrouve en tant que co-réalisateur de Digimon, le film. Pas vraiment une référence du genre. Mais surprise, après s'être fait la main sur la délirante série Samurai Champloo, Hosoda a surpris son monde avec La Traversée du Temps, excellent film explorant l'univers des voyages spatio-temporels. Il ira encore plus loin avec Summer Wars, variation déglinguée du magicien d'Oz. Assagi, après le succès de l'Enfant Loup, il poursuit l'exploration de l'univers animalier avec Le Garçon et la Bête.
Voilà. Mange. Moi aussi. Je suis tout seul, je sais pas où aller.
Il est où, ton père ?
Laisse-moi tranquille.
Montre un peu ta tête, petit.
Oh ! Une bête !
Ça te dirait de partir avec moi ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est mon disciple, point final !
Son disciple ? T'es nul, comme prof !
Tu vas arrêter ces conneries et tu vas obéir !
Oh ! Si je t'obéis, je deviendrai aussi débile que toi !
Répète si tu l'oses.
Kyuta a décidé de te prendre comme modèle, comme le fait un fils qui imite son père.
Un fils ? Kyuta croit qu'il va réussir à s'en sortir seul. Oh. Mais il se trompe, il a encore besoin d'aide.
À Alors, Ren est un jeune garçon solitaire qui va se retrouver orphelin dans le Tokyo contemporain. L'ouverture est saisissante et rappelle la force des œuvres de Satoshi Kon, hein, l'auteur de Perfect Blue, par ce parti pris de tirer le genre vers le haut par une économie de moyens. En effet, dans un plan large montrant une foule s'agiter, l'œil expert remarquera que les individus n'ont pas de visage. Alors, sur le coup, on se dit que c'est lié à l'absence de moyens. La scène suivante montre cette fois-ci les tuteurs du jeune homme dans un plan normal, également dénué de faciès. Les cinq premières minutes décrivent clairement le monde des humains comme aseptisé et déshumanisé. Ren n'a qu'une envie, fuir cette civilisation pour trouver le goût de la vie. Alors son rêve sera bien sûr exaucé le jour où, dans une ruelle sombre, il va faire la connaissance d'une bête encapuchonnée, Kumatsu, qui va l'entraîner dans un monde parallèle, celui des bêtes, appelé Jutengai. Il y a beaucoup de noms comme ça dans le...
C'est japonais.
C'est japonais, voilà. Ren devient le disciple de Kumatsu qui lui donne donc un nouveau nom, Kyuta. Cette rencontre antinomique est le début d'un apprentissage de la vie moins consensuel que prévu. Le récit initiatique ne se déroule pas à sens unique dans une logique hiérarchisante entre le maître et l'élève. L'excellente idée du scénario est de présenter ce maître comme un incapable, une bête immature, colérique, feignant, bordélique et j'en passe. Le jeune homme et la bête vont alors se construire mutuellement jusqu'à devenir inséparables dans tous les sens du terme, mais je n'en dirai pas plus afin de ne pas gâcher un épilogue particulièrement réussi. La première partie, l'entraînement aux arts martiaux de Kyuta et par Kumatsu, mauvais pédagogue en apparence, est drôle, vraiment inventive, enlevée et émouvante, sans jamais forcer le trait. Certains reprocheront sans doute un petit côté anthropomorphique à la Disney, mais en réalité, on se trouve davantage immergé dans un monde animiste et panthéiste. Alors la fluidité de l'animation et la beauté des décors tout en couleurs pastel évoquant les peintres impressionnistes donne un relief particulier à ce film original s'adressant à tous les publics sans véritable démagogie. La deuxième partie révèle un contenu philosophique plus convenu, hein, dans une veine directe de tout un pan de l'animation japonaise, c'est-à-dire la lutte acharnée du bien et du mal, hein, qui bouillonne en chacun de nous. Le côté obscur peut se matérialiser sous différentes formes. Le mal là va même prendre l'apparence d'une baleine flasque, une grosse baleine flasque noire, tirée du Moby Dick d'Herman Melville. Alors l'imagination débordante du cinéaste ne fléchit pas, mais le discours semble plus manichéen que lors d'une première heure touchante et subtile. Réserve mise à part, hein, Le Garçon et la Bête est un magnifique film d'animation, brassant des thèmes éculés comme la quête initiatique, la transmission, le sacrifice, sans jamais être moraliste ou sentencieux. Alors le dernier quart d'heure atteint même des pics d'émotions inattendues, hein, certains peuvent même y verser leurs petites larmes. Alors une révélation, hein, pour ce qui est, je dirais, en matière de film et d'animation, une des meilleures nouvelles de ce début d'année. Un très très bon film à conseiller à tout le monde en fait.
Eh bien, merci Manu. On va passer
du film d'animation. Pour les petits-enfants aussi.
Un film plus générationnel, celui-ci.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Bang Gang s'inspire d'un fait divers qui s'était tenu sur un campus américain il y a 20 ans de cela. Un groupe de jeunes gens avait commencé à présenter chacun leur tour des signes de syphilis, ce qui avait conduit, après enquête, à découvrir qu'ils passaient leurs après-midi à partouser ensemble. Cela valait-il la peine d'adapter cette anecdote façon cinéma français en prenant comme personnages principaux un groupe d'ados de 2016 ? Pour la cinéaste Eva Husson, dont c'est le premier film, le but était d'expliquer comment on en était arrivé là. Pour le coup, eh bien, c'est raté. Le film n'explique rien, ne lance même aucune piste explicative et se contente de mettre en scène avec une certaine fascination et une très jolie lumière les corps nus des adolescents sans jamais s'intéresser à leur psyché.
Salut.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Non, tu répondais pas au téléphone, alors je suis venu. Tu sais qu'il y a des vidéos et des photos en ligne ? Ben, je sais pas, ça te dérange pas ?
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux aller voir la police ? Enfin, de toute façon, je vois pas bien la différence avec les photos que tout le monde publie. Vous me faites chier, sérieux ?
La différence, Georges, c'est que d'un côté, t'as des crétins qui s'envoient en l'air les uns avec les autres, et de l'autre, si j'ai bien compris, t'as une nana qui offre sa tournée à tous les mecs qui passent. Et tu la saisis pas, la différence. Tu réalises que ça va rester sur Internet à vie ? Qu'ici, tu vas rester comme l'affiche Chaleur Bonheur qui était tellement défoncée que tout le monde... Je vais voir qui a posté les vidéos et les photos. Peut-être qu'ils voudront bien les enlever.
Mais s'ils les enlèvent pas, c'est une catastrophe.
à la faveur d'un été caniculaire durant lequel un nombre considérable de trains déraillent sans raison, attention métaphore, un groupe de lycéens qui s'ennuient cherche à tuer le temps dans les faubourgs aisés d'une ville du littoral atlantique. L'absence des parents, l'envie de tester leurs propres limites, les poussent bientôt à organiser des après-midi de débauche appelés « bang gang » au cours desquels ils multiplient partenaires et prises de drogue. Alors on pense naturellement au cinéma de Larry Clark, à Kids, ou à sa dernière œuvre The Smell of Us, mais sa façon de parler de la jeunesse a toujours eu quelque chose de profondément dérangeant et transgressif, tandis que Bang Gang s'apparente à un long fantasme simpliste, dépourvu de réflexion, ému par une simple volonté d'exhibition. Lorsque l'on présente les partouzes adolescentes comme une normalité, mieux vaut quand même avoir quelque chose à dire derrière. Or, le film ne produit aucun discours. Il est bien incapable de parler de la culture porno, de parler des conflits de génération, des rapports hommes-femmes qui se dessinent déjà à l'adolescence. Le film se contente d'être beau et vide, comme ses personnages, qui sont eux réduits à l'état de présence hamiltonienne sans aucune substance. On sent chez les comédiens une belle énergie. Et malgré ça, les personnages adultes du film n'ont pas voix au chapitre, les personnages adolescents non plus. Ils sont présentés comme n'ayant pas de valeur, pas de limite, pas de plaisir, ce qui fait que l'entreprise tourne très vite à vide. C'était une jolie bande-annonce, hein, ça aurait dû rester une bande-annonce. Quoique le générique de fin est assez intéressant, inspiré du giallo. Alors il n'a aucun sens, il n'est là que pour le plaisir des yeux, mais en fait un peu comme le reste du film, donc ça a du sens au final. Voilà, Bang Gang, sitôt vu, sitôt oublié, hein, vraiment... aucun intérêt, malheureusement. Ça me partait d'une bonne idée, mais ça ne produit rien du tout.
Mieux vaut donc aller regarder les Larry Clark.
Exactement, oui, qui sont eux bien plus profonds et bien plus percutants.
Sachant que Larry Clark, c'est une œuvre, enfin, il en a fait un certain nombre de
films.
Oui,
exact. Mais en particulier son dernier, qui était quand même pour moi un des meilleurs films de l'année dernière.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et nous allons parler maintenant de Amama de Azir Altuna. Alors voilà un film qui, pour un distributeur, n'est pas si facile à défendre. D'abord parce qu'il a été tourné en basque. Autant dire qu'en version originale, il concerne peu de personnes de ce côté-ci des Pyrénées comme de l'autre. Alors c'est aussi une histoire simple qui nous parle de l'attachement à la terre, à la tradition sur fond de conflits générationnels, un thème qui n'est pas forcément nouveau. Et enfin, eh bien, c'est un film hybride qui n'hésite pas à offrir des plans séquences, de longs passages musicaux et qui dépasse la narration classique en flirtant avec l'expérimental, mais flirtant seulement. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un film dont on ressort sans en avoir saisi le sens. C'est au contraire une œuvre qui nous donne toutes les clés et qui nous embarque dans un monde entre réalisme et onirisme. Amama veut dire grand-mère en basque, l'un des personnages clés du film. Alors pour faire court, nous sommes dans une ferme basque au milieu de nulle part. Un conflit de génération éclate quand l'aîné de la famille décide de quitter la maisonnée et de ne reprendre ni les terres ni la ferme. Le père s'enferme, continue imperturbablement à planter, nourrir, récolter sous le regard de la fameuse Amama qui a semble-t-il perdu la parole. Le conflit va prendre une autre tournure quand Amaya, cette fois-ci la Benjamine de la famille, essaie de convaincre son père d'abandonner la terre qui n'intéresse plus ses enfants, ou simplement d'éviter de ramasser les pommes dont il n'arrive même plus à écouler le stock. Alors autant elle est ouverte, inventive, moderne, c'est une artiste en fait, cette fille, que lui, son père, est borné et rivé dans la tradition. Alors on écoute Amparo Badiola qui est en meilleure forme que Manu et Marine qui décidément découvrent les symptômes de l'hiver. Donc on écoute Amparo Badiola, l'actrice basque qui parle parfaitement le français. En fait, elle habite Sète. Et c'est elle qui interprète la grand-mère. Elle nous livre quelques clés d'Amama.
Etxeko bakoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago. Ama en basque, moi j'appelais ma mère Ama.
Ama, oui.
Et en ajoutant ma, c'est mère de la mère et la grand-mère.
Susa, vas a rendre à tu salada.
Elle observe tout, elle sait ce qui se passe.
Elle voit tout.
Elle voit tout. Elle, c'est celle qui représente les traditions, voilà. les anciens. Et ils ont quand même, pour les anciens, un très grand respect. Ma petite fille le dit à un moment donné. Elle dit, ça aussi c'est un symbole. Elle dit, il faut 80 amamas pour remonter au néolithique. Et si vous multipliez 80 par 90 ans, il me met comme âge, on y est. Donc elle trouve que ce n'est pas si lointain. J'adore mon fils, mais je ne suis plus d'accord. Il faut qu'il change. Je lui fais comprendre qu'il faut qu'il change parce que Sinon, il va tout perdre. Il va tout perdre. Alors bon, l'exploitation, c'est une chose. Il faut qu'il change. Ça n'est pas grave. Mais ce qui est grave pour la maman, c'est que les enfants partent. Et que la désunion soit dans la famille. Donc, elle veut regrouper ça. Ça, moi, je trouve ça. C'est le but de toutes les grand-mères, hein, que les enfants ne s'envolent pas trop loin, ou du moins qu'ils restent près du cœur. La maman qui ne dit rien, elle est assez moderne, hein. Elle suit sa petite fille, elle peut lui faire faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'amour dans ce film. Moi, j'aime mes petits-enfants. Et cette rebelle, bon, elle me plaît. D'une certaine manière, elle me plaît, et elle peut me faire faire n'importe quoi. Elle me coiffe à sa façon, elle me fait marcher dans des salades et des... On s'amuse.
Voilà, c'était Amparo Badiola, donc une actrice d'un certain âge hein, quand même, et qui joue donc le rôle d'une grand-mère, ça tombe bien, dans ce film Amama de Azir Altuna. C'est l'exploration du monde rural, il y a une fantaisie dans le traitement, il y a vraiment des images très très plastiques, c'est très musical aussi, là j'ai laissé pas mal d'extraits sonores, et puis eh bien, justement il a remporté le prix JAM de la meilleure musique au festival Cinémed. 2015, et c'est amplement mérité parce que c'est vraiment une très très bonne utilisation de la musique, et il y a un moment où il y a carrément de la transe, vers la fin du film ça se termine en transe, et c'est admirablement réussi. Il y a aussi cette espèce de petite tradition de l'arbre planté, alors il en est question dans ce film, dans la culture basque, dès qu'un enfant naît, en fait on plante un arbre, et donc qui correspond à la vie de l'enfant. Et là, bon, cet arbre va être coloré pour la Benjamine, qui est une artiste. Elle va le colorer, elle va essayer de mettre de l'invention un peu dans, et de la nouveauté dans cette famille. Et puis, il va se passer des choses autour de ces arbres. Enfin, il y a non seulement la tradition dans ce film, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés, et y compris dans la manière de raconter et dans la manière d'ordonner les images et un montage. Voilà, je vous le recommande. C'est Amama de Azir Altuna.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on passe maintenant à Paris Willoughby. Alors Paris Willoughby, c'est ce que l'on appelle un film tendre, mais je ne serai malheureusement, pas tendre avec. L'histoire, bien que allègrement pompée sur Little Miss Sunshine, rappelle le scénario de la plupart des comédies françaises. Une famille recomposée, gentiment dysfonctionnelle, se retrouve dans un road trip plus ou moins maîtrisé, au cours duquel les secrets des uns et des autres vont se révéler et les tensions s'exacerber. Le père doit être muté et n'ose pas le dire à sa famille, la mère ne se sent plus désirée, le fils végétarien est amoureux de sa demi-sœur et l'oncle, un peu borderline, va bientôt devenir papa. Tout ce petit monde doit partir à Willoughby, ville imaginaire perdue dans la campagne française, pour l'enterrement du patriarche. Alors dommage, hein, lorsque l'on est enfermé pendant 1h30 avec une même famille, l'essentiel quand même c'est que ses membres soient attachants. Or les comédiens sont ici complètement sous-exploités. Stéphane De Groot, Isabelle Carré et Alex Lutz, entre autres, c'est vrai que c'est plutôt quand même impressionnant au niveau casting, se retrouvant avec des personnages à peine ébauchés qu'ils peinent à rendre crédibles. Ainsi les ombres fantomatiques de stéréotypes déjà maintes fois entrevues dans le cinéma indépendant américain flottent sur cette comédie interminable sans parvenir à exister au travers de situations ultra téléphoné et de dialogue creux. Alors je dois dire que j'ai été assez surprise de voir l'âge des auteurs, parce que j'avais l'impression d'être devant une comédie franco-française sans âme, écrite par un pseudo-auteur quinquagénaire avide d'argent facile. Et il s'avère que ce sont deux très jeunes cinéastes de 26 ans à peine.
Qui tournent mal donc dès le début.
Non mais qui semblent avoir une démarche plutôt honnête en fait. Mmh. Donc ça me fait presque en fait du mal de dire... autant de mauvaises choses sur ce film, parce que c'est vrai qu'ils avaient l'air assez honnêtes dans leur démarche et ils avaient l'air d'être plein d'envie, mais ils ne sont malheureusement pas aussi inspirés qu'ils en ont l'air. Et du coup, on va écouter quelques extraits de l'interview justement de Arthur Delair et le deuxième nom m'échappe. Et Quentin Reynaud. Quentin Reynaud et Arthur Delair, voilà.
Est-ce que tu penses que j'aurai des gros nichons un jour, moi aussi?
J'en sais rien, Prune. Tu peux mettre le couvert en attendant?
Tu peux pas frapper, putain? Quel blaireau!
En même temps, c'est un peu ma chambre, quoi.
À l'origine, le projet, c'était un voyage qui devait aller vers l'Angleterre, dans la ville de Willoughby.
Ah ouais.
G-H-B-Y, en gros. Et en fait, pour des raisons de budget, de scénario, on a décidé de rester en fait en France, mais on était extrêmement attachés à cette ville.
Et à ce titre?
Et à ce titre.
On n'arrivait pas à dire autre chose.
Voilà.
On a essayé plein de trucs et tout, ça marchait pas. Donc.
Et pour des raisons de prononciation, de facilité, on l'a transformé en Willoughby. Et nous, ça nous sert, par rapport à notre film et à ce qu'on voulait, savoir que cette ville n'existe pas. Et qu'on a quelque chose de concret avec Paris, quelque chose de réaliste. Et quand on part de Paris, quand ta famille part de Paris, donc pour aller à l'enterrement de ce grand-père, pour régler, et dans la voiture dans laquelle ils vont régler un petit peu toutes leurs histoires de famille, ils vont aller vers quelque chose qui n'existe pas, et il va y avoir du coup des aventures un petit peu rocambolesques, oniriques, et c'était vraiment l'idée de, voilà, d'avoir un chemin de vie qui va les amener un peu à évoluer ensemble. Et Willoughby, c'est ça, c'est un peu cette ville qui n'existe pas vers laquelle ils vont.
On va ressembler à un couple au bord du divorce, moi je trouve.
Bonsoir Maurice.
T'as le droit de m'appeler papa aussi.
Laisse-la vivre un peu.
Tu gères l'éducation de ton fils et je m'occupe de celle de ma fille, ok? C'est vrai, je peux t'aider là?
Il y a quand même 3 millions d'animaux qui sont plaqués dans des hangars et je vous dis pas le stress qu'ils ont.
T'es juste une énorme tapette en fait. Papa est mort. On l'enterre après-demain.
On s'est inspiré sur le côté road movie de films comme Thelma et Louise, Un monde meilleur, des films cultes de road movie. Mais ce qu'on aime bien dans ces films-là, c'est que dans le cinéma américain, ils ont pas peur d'être. Dans le cinéma indépendant américain, ils ont pas peur d'amener un peu de fantasy. En France, on a peur de. On fait pas de science-fiction, on a peur de la fantasy. Enfin, pas tout le monde, hein, évidemment, hein, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup souffert pour produire notre film parce qu'on était on était un peu transgenre. On était ni une grosse comédie, ni un film d'auteur hyper compliqué, nanana. Il y avait de l'onirisme, de la fantaisie, donc c'était un peu compliqué, mais nous, c'est ce qui nous plaît. Quoi.
C'est vraiment ça, ouais, qu'on a essayé d'aller chercher dans les comédies plutôt américaines, c'est le côté rire et le côté sensible, le côté délicat. En fait, on voulait forcer personne dans notre film. Alors, on peut rentrer dedans ou on ne peut pas rentrer dedans, mais c'est une volonté. On démarre doucement et on veut juste que les gens, en fait, partent avec cette famille. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça a été du coup un problème au niveau du financement. Parce que quand on allait voir les chaînes de télé qui pensent, par exemple, à la diffusion déjà du vendredi soir, alors même qu'ils lisent le scénario, ils disent « mais ouais, comment je le vends ?» Et ça a été assez compliqué pour nous. Mais c'est quelque chose dans notre mise en scène qui est vraiment revendiqué. Voilà.
Vous partez en vacances ?
Oui. Non, en fait, c'est funérailles. La femme de mon père. Le père de ma femme.
Ça fait longtemps que tu ne m'as pas regardé comme ça. Je suis trop vieille, c'est ça ?
On est en voyage, on visite un lieu qu'on ne connaît pas. Pardon, madame.
Oui ?
On découvre une culture différente.
Notre but, c'est pas de faire rire toutes les deux minutes. Même une comédie, c'est beaucoup plus que toutes les deux minutes. Il y a des règles. Notre truc, c'était de faire rire quand ça va faire rire naturellement.
Voilà. Nous, on le qualifie de comédie sensible, notre film. Voilà. Et ce qui est un genre qui n'existe pas.
Non, bien sûr, t'es pas ma mère, Claire. Occupe-toi de ton père, de vos non-dits et de vos rancœurs, et puis tu me laisses tranquille.
Pourquoi vous abandonnez, grand-père ?
Mon prune-ton, ton grand-père nous a pas vraiment abandonnés.
Claire a besoin de nous. Et toi, tu fais aucun effort.
T'as l'air triste.
Je pense que c'est un film qui se bonifie plus on le regarde. Et il y a vraiment différents degrés de lecture et différentes interprétations. Par exemple, la petite... regarder le film en regardant juste comment la petite joue, même sans, quand elle parle pas, et quand les autres parlent, mais regardez là, c'est un truc, c'est fou quoi. Nous on était, c'est subjugant quoi. C'est
incroyable.
Elle joue tout le temps.
Tu te rends compte qu'on a perdu 7 ans de notre vie avec les papas à cause de cette rancune à la con.
Arrête de dire de la merde. Pour une fois qu'on est tous réunis, j'aimerais bien qu'on se retrouve un peu. C'est un beau jour pour pardonner.
Voilà, on est comme ça, Cinérama, on laisse les deux réalisateurs se défendre, même si tu n'as pas aimé, Marine.
Pas
voilà,
forcément.
Maintenant, un petit hommage.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Écoute, papa, je suis tombé sur une occasion terrible. Pour 300 000 lire, on m'offre un salon de coiffure de luxe à deux pas sur l'avenue. Une véritable affaire. C'est...
Pas fille, tu es comme ça, Lance.
Lars, mais c'est ça, les hommes. Quand ils sont servis de toi, ils
jettent. Regarde-les, ces oiseaux de malheur.
Et c'est pas cher, 300 000 lire, hein, qu'en dis-tu?
Hey, tu les as, les 300 000 lire?
Non, mais je pensais peut-être que toi...
Moi? Et qui tu es, toi? Hein? On a fait la guerre ensemble, tous les deux? T'es mon ami? Non. Alors?
Mais papa, je te rembourserai tous les mois.
Oui, mais ça t'aura rien à me rembourser parce que t'auras rien, rien de rien. C'est moi qui t'ai fait mettre au monde, alors tu crois que c'est déjà pas assez?
Cette phrase...
phrase.
Bien répondu, mon fils. Lui donne rien, rien de rien. Nothing.
Hey, taupe. Papa, écoute bien ce que je te dis. De toute façon, cet argent, on te le volera. Ils te veulent tous du mal. Et maman, la première.
Alors écoute, fais une chose. T'as qu'à me vouloir du mal toi aussi, et comme ça, tout ira bien.
The people in the world.
Cet argent, t'en jouiras pas. On te le volera, ou tu perdras tout ton médicament.
Écoute-moi bien, même s'il devait servir qu'à payer mon enterrement, je te donnerai pas un rond, ni à toi, ni à personne. Ni à toi, ni à personne. C'est clair. Ah, moi, ça me paraît clair.
Clear. En anglais, clair se dit clear.
Eh oui, voilà, ça vous donne peut-être l'occasion de vous replonger dans Affreux, sales et méchants d'Ettore Scola.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Et voilà, on revient la semaine prochaine avec...
Oui, avec entre autres Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse, Legend et Le Convoi. Voilà, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Oh, c'est moi qui parle de tout, voilà.
Cinérama. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.